Pascal Castillo, nous nous retrouvons maintenant dans la vallée de Castelloubon. Nous étions à Batte-sur-Guère hier et nous voilà à Castelloubon aujourd'hui, à Côte-d'Oussan pour être très précise, au pied de cette église dédiée à Saint-Jacques également. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer peut-être les éléments fondamentaux et historiques?
Oui, bonjour Anne-Rose. En effet, nous sommes ici à Côte-d'Oussan. Alors, d'abord, je voudrais mentionner quelque chose d'un peu particulier, c'est que cette église fait partie, avec trois autres églises de notre diocèse, de biens inscrits au titre de l'UNESCO pour les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, c'est quand même quelque chose d'important puisque l'UNESCO a reconnu l'intérêt et la valeur particulière de ces quatre églises de notre diocèse. Donc j'en profite pour les citer. Donc l'église de Gavarnie, également l'église de Gézeau et la chapelle d'Aragnouette.
Voilà, donc ces quatre églises qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et cette église Côte-d'Oussan qui se situe dans un tout petit village. Alors, on n'est pas très loin de Lourdes. On n'est pas très très loin d'Argelès-Gazost. Et puis, il y a Bagnères plus loin. Mais enfin, les gens qui passent ici à Côte-d'Oussan ont pris souvent le chemin du Piémont en passant par Bagnères-de-Bigorre. Et avant d'aller à Lourdes, ils passent par ici.
Tout à fait. Et un petit village, mais une longue histoire.
Ah.
Puisque ici, autrefois, existait le château de Castelloubon, qui était le refuge des vicomtes du Lavedan, qui contrôlait la vallée ainsi que la voie en provenance de Bagnères que vous avez évoquée. Donc cet édifice est d'origine romane. Alors si vous ouvrez les yeux, vous voyez un certain nombre de pierres de remploi. On peut deviner le clocher-mur, enfin la partie supérieure qu'on reconnaît aisément avec ses contreforts au devant. Et c'est une église qui a souffert du grand séisme de 1660 qui a sévi ici et qui a généré énormément de destruction. D'ailleurs, à la suite de ce séisme, donc il y a une première campagne de restauration qui va être menée. Quand on rentrera tout à l'heure dans l'église, on verra sur la partie droite une pierre avec des symboles jacquaires, datés de 1661. On suppose que cette pierre est un réemploi et qu'elle se trouvait initialement au niveau du linteau de la porte de l'église.
Voilà, et donc qui s'est effondré au moment de ce séisme.
Tout à fait. Donc, première campagne de reconstruction. Et ensuite, une autre à la fin du XVIIIe siècle, puisque si vous vous approchez au-dessus de la porte d'entrée,
Ah oui, il y
vous
a
trouvez
écrit
également
1790.
cette date de 1790. Voilà. Donc, ben voilà, le temps, les événements ont nécessité donc des campagnes de restauration, puis le temps a filé et cette église, autour des années 1960, a dû être fermée. Parce qu'elle se retrouvait complètement délabrée, la flèche était tombée et elle était en état d'abandon. On dit que, enfin, on dit c'est une réalité, que les éléments du retable baroque que nous allons découvrir ensemble ben, étaient démontés, éparpillés. Mais il y a eu la volonté, entre les années 1900, fin des années 1990-2000, de restaurer complètement ce bâtiment, de le rénover pour lui permettre de survivre de témoigner de cette place sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Donc une belle histoire, on dirait aujourd'hui de résilience, en tout cas de ben voilà au fil du temps les épreuves, mais cette volonté toujours présente de reconstruire, d'avancer.
Et cette volonté, elle vient des habitants de la vallée, du village. Ce sont les gens d'ici qui n'ont pas voulu laisser mourir leur patrimoine.
Oui, il y a cette dimension-là. Ensuite, au XXe siècle, quand on évoque la grande campagne de restauration de 1997. C'est aussi un engagement de l'État et de ses services pour la préservation de ce patrimoine. Il y a eu également des soutiens privés. Voilà.
Mais il y avait tout à faire à cette époque-là. Parce que si elle était fermée, on imagine l'état de délabrement, d'abandon dans lequel elle se trouvait, cette église, à ce moment-là. Il y avait tout à faire ou à refaire.
Voilà, il fallait reconstruire. Hein. Mais une des grandes de chances, c'est que les éléments en particulier du rétable... avait été conservé et il s'est
démantelé, mais conservé.
Voilà. Alors, pas bien sûr en totalité, mais grâce aux archives qui existent et aux photos, il y a eu possibilité de reconstituer.
Bon, alors on va voir. On rentre dans cette église Saint-Jacques de Côte-d'Oussan. Voilà. Alors, il y a du monde dans cette église, puisque nous tombons nez à nez avec un habitant de Côte-d'Oussan. Bonjour, monsieur.
Oui.
Vous êtes habitant du village.
Oui, c'est moi qui m'occupe de faire visiter l'église à tous les pèlerins, tout ça, parce qu'ils passent devant chez moi, là. Et alors, je les vois passer, alors ce qui fait que je les accompagne à l'église.
Voilà. Voilà, ça tombe bien. Et puis, vous êtes en compagnie du père Moussielac. Bonjour à vous, père.
Bonjour.
Vous êtes le curé de cette vallée et de la vallée de Batte-sur-Guère également.
Oui, je suis responsable de pastoral d'ici.
Voilà.
Donc, c'est une chance, Anne Rose.
Ben oui, c'est voilà.
Puisque...
Moi, j'étais dans l'Est, je ne savais pas que c'était lui. Je l'ai vu dans le prix, là, et je vais demander si vous voulez voir l'église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici, qui tournent autour de l'église. Et alors, moi, je les interpelle, je voulais voir l'église. Ah oui, c'est un plaisir, mais elle est fermée. Non, pas pour longtemps.
Vous avez la clé.
J'ai la clé.
Voilà, la grande clé. Hein.
Voilà, je viens quelques fois, ça m'est arrivé de venir, surtout le samedi et le dimanche, jusqu'à 9 fois dans la journée.
Ah oui.
Ah oui.
Donc il y a des pèlerins qui passent assez régulièrement?
Pas spécialement des pèlerins, mais beaucoup de gens qui ne sont pas de très loin, qui ne connaissent pas l'église, qui connaissent un peu le village, plus ou moins parce qu'ils ont fait ou en vélo ou des promenades.
Monsieur, vous êtes habitant du village depuis toujours? Vous avez participé à la reconstruction, à la rénovation?
Oui, je suis conseiller municipal depuis 1972, alors je m'occupe un peu de la commune, quoi.
Voilà, donc c'est partie des témoins de cette rénovation de l'église de Côte-d'Oussan.
Oui. Et puis maintenant, comme on a avec M. Emma Begin, lui qui s'occupe un peu des chemins de Compostelle et tout ça, on fait en manière de faire améliorer un peu le village, quoi.
De faire vivre
la vallée, surtout la vallée, et en même temps la vallée aussi. Ouais. Parce que toute la vallée vit un peu avec l'église, avec l'auberge. Le berger Castelbon, dont moi je fais partie de la commission syndicale, ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent à l'église et qui ont mangé à la maison de la vallée, ou qui vont manger à la maison de la vallée, et puis à l'après-midi, on leur dit, t'as une belle église, t'es monté là-haut. Mm-hmm. Et voilà quoi.
Bon, on s'approche. On s'approche du retable. Allez, hop. Alors. Donc, on a bien compris, Pascal Castillo, ce retable a été. Trouvé complètement démantelé dans l'église à la fin des années 90. Et puis, les habitants, avec les autorités départementales, régionales, se sont mobilisés pour reconstruire, parce que ce n'était pas possible de laisser un tel trésor en friche.
Tout à fait. Et c'est vraiment un bel exemple, on l'a évoqué, de reconstitution. Donc, ce rétable, il est dédié donc à Saint-Jacques, à son martyr, qu'on voit sur les deux panneaux de gauche et de droite.
On peut décrire un petit peu avec,
Oui, donc sur le panneau de gauche, vous pouvez voir Saint-Jacques, la corde au cou, qui est extirpé de sa prison, on peut supposer, et qui est conduit sur la droite à son martyr, puisqu'il sera décapité sur l'ordre d'Hérode Agrippa. On voit le doigt vengeur et accusateur. Voilà donc le martyr de Saint-Jacques et des premiers chrétiens. Hein. Mais en partie centrale, l'apothéose, puisque c'est toujours la vie qui l'emporte sur la mort. Donc on voit Saint-Jacques en partie centrale, les bras ouverts, les coquilles sur son mantelet, avec au-dessus de lui deux angelots, l'un portant la palme de son martyr et l'autre la couronne de sa sainteté. Voilà.
Saint-Jacques, les yeux vers le ciel.
Vers le ciel.
Et alors en dessous
vers Dieu, le Père.
Vers Dieu, le Père qui est au-dessus.
Qui voilà. Est tout à fait en partie haute. Ce Dieu, le Père, avec sa grosse barbe, traité de façon un peu rustique, on pourrait dire, mais qui tend les bras pour accueillir Saint-Jacques, mais pour nous accueillir également, nous tous qui venons et entrons dans cette église. Alors regardez en partie basse du panneau central, je trouve ça assez à la fois touchant et très beau en termes de symbolique. Vous avez sur la gauche et sur la droite des pèlerins. On voit leurs attributs,
la ton, la besée,
voilà, des hommes, mais aussi des femmes, vous voyez, agenouillés au pied de Saint-Jacques, à partie centrale, une église, et en partie arrière,
une église de montagne, voilà,
oui, ce paysage.
Ce paysage d'ici, de la vallée Castelnuovo. Hein,
voilà, on va dire ça, on va dire ça.
On pourrait très bien le voir comme ça.
Alors, une chance supplémentaire pour cette église, c'est que nous avons des archives qui nous permettent de savoir exactement à quelle période il a été réalisé et par qui. Ainsi, on sait que ce rétable a été commandé aux sculpteurs Jacques Galli de Toulouse et Élie Couraud de Lourdes en 1662. Donc on a vu, hein, séisme de 1660, pierre de 1661, en 1662 commande, et il a été mis en couleur et doré par Jean Cateau d'Asté en 1680. C'est d'ailleurs ce même peintre qui va parachever la dorure du tabernacle, lui-même réalisé par un des grands sculpteurs du baroque de notre région, à savoir Soustre, l'atelier Soustre. Voilà, et c'en est un très bel exemple.
Alors, de la même manière qu'on l'a vu dans l'église de Ossa, dans la vallée de Bad-sur-Guère, il est en bon état, il ne manque rien, ou du moins pas grand-chose, peut-être des statuettes de chaque côté, mais enfin, oui. Tout est là, et on voit tous les petits anges avec leurs ailes, enfin tout y est, quoi.
Oui, tout y est, à l'exception des deux statuettes que vous avez évoquées, et une multiplicité de détails. Alors si nous nous approchons, Anne-Rose, regardez, donc sur la porte du coffre eucharistique ou du tabernacle, hein, donc la représentation d'une crucifixion, hein, avec le Christ en croix, avec à ses pieds la Vierge Marie et Saint Jean, et au-dessus de la porte la représentation de Dieu le Père, une belle représentation.
Toujours avec sa barbe.
Toujours avec sa barbe, mais toujours avec ses bras ouverts aussi.
Hein. C'est vrai.
C'est voilà, de part et d'autre de la porte, on reconnaît Saint Jean-Baptiste. Et à côté de lui, peut-être Saint-Paul.
Alors là, c'est une colle.
Ouais, là, c'est une colle.
Mais vous l'avez dit en préparant cette émission, une église, c'est un lieu de catéchèse. Et alors là, on est vraiment dans un cas d'école typique. C'est que voilà, dans une église, bien on apprend sur Dieu, sur l'histoire des chrétiens, voilà, typiquement.
Tout à fait. Alors, frère Mathieu formulerait ça beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que ces tabernacles sont d'une richesse extraordinaire. Il y a à la fois une grille de lecture verticale et horizontale. Donc, on a évoqué la présence de Dieu le Père au-dessus du Christ mort, mais ressuscité. Vous voyez le Christ ressuscité en partie haute et en partie centrale, sous la niche, la Vierge Marie qui tient dans ses bras l'enfant Jésus. Et c'est aussi l'incarnation de notre Dieu. Donc
ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre et analyser une partie d'un retable seul. Un retable s'observe et s'admire dans son ensemble. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Alors oui, alors je dirais à la fois, c'est une belle œuvre. Oui. Que vous soyez formé chrétien ou pas, vous pouvez être touché par la beauté de cette réalisation. Mais cette réalisation et ce beau, c'est porteur de sens. Oui. Et donc pour aller plus loin, pour entrer dans le mystère, il faut déjà regarder, se poser et lire le retable. Vous voyez sur l'aile de gauche, donc une représentation de l'Annonciation, avec l'ange qui s'adresse à la Vierge Marie. Et sur la partie droite, une Assomption de la Vierge. Voilà, sur les panneaux de part et d'autre de la niche, deux représentations de saintes, alors qu'on reconnaît grâce à leurs attributs, à gauche Sainte Barbe. Avec alors, la palme.
Quels sont ces attributs ?
Alors vous voyez la palme, alors la palme c'est l'attribut, c'est la palme du martyr,
hein,
la tour de Sainte Barbe, et à droite, Sainte Catherine d'Alexandrie, qu'on reconnaît parce que avec la roue dentelée qui a été l'objet de son supplice, hein, et qui tient aussi dans sa main droite la palme de son martyr. Vous évoquiez les anges également. Voilà, un très bel ensemble qui mérite de se poser, d'ouvrir les yeux, de prendre le temps, de se laisser toucher et, quand on peut, d'être accompagné pour comprendre le sens. Hein,
Alors pour vous qui êtes en charge de ce patrimoine dans le diocèse, c'est un peu votre mission d'en prendre soin, de veiller à ce que les habitants et les municipalités en prennent soin. On imagine une certaine émotion quand vous entrez dans cette église de Côte-d'Ousson, comme dans beaucoup d'églises de Bigorre d'ailleurs, où les retables sont magnifiques. J'allais dire, permettez-moi d'employer ce terme, ils en jettent, quoi. On en prend plein la vue avec ces dorures, ces couleurs. Qu'est-ce que ça vous fait, à vous, Pascal Castillo? Vous devez ressentir quand même une certaine fierté de voir ça.
Alors, d'abord, je dirais une émotion. Ensuite, de se dire que en tant que représentant du clergé affectataire, on est héritier de ce patrimoine, un patrimoine qui est à conserver, et en ce sens les communes font beaucoup pour entretenir ce patrimoine avec l'aide de la région et des services de l'État. Le rôle du clergé, c'est de faire vivre ces églises, puisque c'est ce qui donne sens à tout ça. C'est une catéchèse, c'est un lieu de culte, mais c'est aussi ces églises un lieu
de transmission,
un lieu de découverte, un lieu de paix, un lieu de à travers l'art et la beauté, mais aussi sa signification, un lieu qui permet de s'élever, hein. Donc, de l'émotion, la fierté, c'est celle de nous tous, chrétiens, de voir que nos prédécesseurs ont toujours souhaité faire du beau. On l'évoquait à Haussen, hein, et ça, c'est quelque chose qui, moi, me touche particulièrement, de faire du beau pour la gloire de Dieu. Et ce qui est aussi touchant, c'est ce souhait de faire du beau, même dans les moindres détails, parfois sur des zones qui ne sont pas visibles de premier abord. Mais pour Dieu, tout est visible. Donc, dans le détail et dans le vraiment des ce souci de faire du beau. Alors notre notre mission, hein, en tant que diocésain, c'est aussi de contribuer à faciliter, on l'évoquait, l'ouverture de nos églises et d'accompagner.
Ça, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que les églises soient ouvertes.
Oui, ben, c'est l'essence même d'une église. C'est un lieu d'accueil, un lieu de rencontre. C'est vrai que c'est difficile parce que ben, il y a déjà un patrimoine à préserver, donc il faut assurer la sécurité. Il faut aussi pouvoir accueillir les personnes qui arrivent pour, on l'évoquait, les accompagner, puis les faire rentrer humblement, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, mais à travers le partage du sens de ce patrimoine, de ces retables, de l'approche du tabernacle, hein, ben de peut-être humblement de leur faire ouvrir les yeux et en tout cas de les accueillir pour leur faire partager à la fois cet héritage patrimonial et à la fois ce qui fait l'essentiel de notre foi.
Bien, alors est-ce que on poursuit cette visite quand même parce que le retable.
Oui, c'est ça.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, effectivement. Mais il n'y a pas que ça. Là encore, je crois que vous vouliez nous parler du baptistère. Décidément, hein, les baptistères, là,
ouais, nous... quand même, le lieu du baptême, hein, voilà. C'est quand même la première
c'est
étape.
Là que, hein, tout, que tout
c'est
commence.
Là que tout commence. Alors, oui, on voit cette cuve baptismale qui est au fond de l'église, un peu cachée par les panneaux, mais qui est intéressante.
On sait de quoi elle date?
Non, on voit que la pierre est fort ancienne. Hein. Je ne sais pas exactement de quand elle date. Par contre, j'ai lu qu'une ancienne cuve baptismale romane se trouvait à l'entrée du village et était utilisée aujourd'hui comme fontaine. Alors, on peut dire qu'on reste en lien avec l'eau. En tout cas, ce réemploi a permis de la préserver. Il faut, vous ne croyez pas? C'est, voilà.
Alors, Pascal Castillo, au terme de nos visites dans les vallées de Batte-sur-Gère et Castel-Loubon, vous voulez nous parler d'une exposition, l'exposition de Compostelle, de Saint-Jacques de Compostelle, une exposition itinérante, hein, qui parcourt le diocèse depuis plusieurs années. Alors, en cette année jacquaire, évidemment, c'est incontournable. Et cette exposition passera en l'église de Côte-d'Oussan cet été. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le programme?
Oui, donc cette exposition réalisée par le diocèse de Tarbes-et-Lourdes présente donc l'histoire du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et met en lumière donc les églises de notre diocèse qui sont sur ces routes. Et donc, vous l'avez évoqué, c'est une exposition itinérante, hein, puisque l'idée c'est d'aller à la rencontre du plus grand nombre. Et donc, au mois de juin, elle sera présentée ici, dans l'église de Côte-d'Oussan. Ensuite, elle partira sur Argelès. Et ensuite, elle se rendra à Saint-Pé, où elle sera présentée aussi dans l'église à l'occasion de la fête de Saint-Jacques le 25 juillet.
Voilà, donc rappelons que le 25 juillet donc, tombe un dimanche cette année. Voilà pourquoi c'est une année jacquaire. Dans plusieurs villages des Hautes-Pyrénées, nous célébrerons évidemment ce saint, Saint-Jacques, parce que c'est le patron de plusieurs villages. Alors les villages que nous avons visités, mais d'autres également. Donc voilà, ça va être... alors c'est toujours la fête, hein, mais ça va être une fête encore plus... plus grande cette année jacquaire, parce qu'on va célébrer Saint-Jacques, Covid ou pas Covid, on célébrera Saint-Jacques.
Voilà, le Covid nous pose beaucoup de contraintes, mais nous avons la chance, bon déjà on va avancer vers du meilleur, mais aussi d'avoir la possibilité de garder nos églises ouvertes. Donc nous allons fêter dignement Saint-Jacques. Alors vous l'avez évoqué, Anne-Rose, on a d'autres églises du diocèse dédiées à Saint-Jacques. Et ce que je vous propose pour terminer, c'est aussi de les citer pour être en lien avec d'autres secteurs de notre diocèse.
Le lien, toujours le lien.
Exactement. Donc, parmi les églises dédiées à Saint-Jacques, le majeur dans notre diocèse, nous avons l'église de Camors, l'église de Salargelès, de Sauveterre, de Montoussé, d'Ariagos, de Germes-sur-Loussuette. J'espère que je le prononce bien.
Germes-sur-Loussuette, c'est pas très loin.
Tout à fait. D'Esconetz, de Vidouze et de Vignec.
Voilà, eh bien merci Pascal Castillo, vous nous avez fait parcourir la Bigorre aujourd'hui, merci beaucoup.
Un petit peu, en tout cas merci à vous Anne-Rose, et venez découvrir si vous ne les connaissez pas, ces églises, et si vous les connaissez, je suis certaine qu'en vous posant et en ouvrant les yeux, vous allez découvrir de nouvelles choses. Merci. Voilà.